Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Les phénomènes extrêmes, météo, climat, sécheresse, inondation, provoquent 115 morts par jour depuis 50 ans, 2 millions en tout. Depuis 1970, le nombre de ces catastrophes a quintuplé sous l'effet du dérèglement climatique. Marseille, ville phare de la rentrée, Emmanuel Macron y passe la fin de semaine. Première étape dans les quartiers nord cet après-midi. L'Élysée promet un plan historique pour la ville marquée par les morts du trafic de drogue. Dans ce journal, coup de fil à Monseigneur Aveline, l'archevêque de Marseille, il appelle à un réveil des consciences. Sommes-nous sur la bonne voie en métropole pour sortir de la quatrième vague de Covid? À 13h30, notre invité est le docteur Clarisse Audigier Valette, responsable de l'unité Covid-Pneumo à l'hôpital de Toulon. Toutes vos questions sur le variant Delta, la dose de rappel, le vaccin pour les plus jeunes, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Dans l'actualité encore, les femmes journalistes, déjà beaucoup moins nombreuses dans l'Afghanistan des talibans, la rentrée des enseignants. Dans C'est une chanson, un enseignant parle très joliment de sa vocation.
Même si c'est un élève par an qui peut être ému par quelques phrase de, je ne sais pas, de Chateaubriand, de Duras, de Molière. C'est une chance folle de voir ça dans les yeux des élèves, je trouve.
Rendez-vous à 13h45 au micro de Frédéric Pommier. Et puis c'est mercredi, nous profiterons des choix de films de Corinne Pellicier, Le Dernier Marvel, Une histoire d'amour et du désir et La plus vieille écolière du monde. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Quelques semaines après le rapport du GIEC, voici une preuve de plus que le dérèglement climatique, nous y sommes et qu'il provoque des milliers et même millions de morts. C'est un rapport de l'Organisation météorologique mondiale. Entre 1970 et 2019, près de 50 ans, 11 000 catastrophes provoquées par des phénomènes météo, climatiques, hydrologiques extrêmes. Ils ont considérablement augmenté au fil de la période. Bilan, Sandy Dauphin, 2 millions de morts en moins de 50 ans.
Oui, le nombre de catastrophes météorologiques a été multiplié par 5 en l'espace de 50 ans, avec un coût humain et économique énorme. Plus de 2 millions de morts, vous le disiez, et 3 000 milliards d'euros de dégâts. Les phénomènes les plus meurtriers sont dans l'ordre les sécheresses, les tempêtes, les inondations et enfin les canicules. La quasi-totalité des décès, 91%, sont survenus dans des pays en développement. L'Organisation météorologique mondiale constate tout de même une amélioration. Aujourd'hui, les catastrophes naturelles font beaucoup moins de morts qu'avant parce qu'il y a eu des progrès dans la gestion de crise, mais surtout grâce à des systèmes d'alerte précoce plus efficace pour informer les populations de l'arrivée d'un danger. Les désastres météo font moins de victimes qu'avant, mais génèrent beaucoup plus de pertes économiques. Leur coût a été multiplié par 7 en l'espace de 50 ans, surtout les tempêtes. Un ouragan comme Harvey qui a dévasté le Texas en 2017, c'est 97 milliards de dollars de dégâts. L'Organisation météorologique mondiale prévient, avec le réchauffement climatique, tempêtes, sécheresses, canicules, inondations vont devenir encore plus fréquentes et violentes dans certaines régions du monde.
En Floride, l'électricité sera-t-elle rétablie aujourd'hui pour le million de foyers qui l'ont perdu après le passage de la tempête Ida? C'était encore blackout hier soir. Ici, Météo France a présenté hier le bilan climatique de l'été par rapport à un été normal. 23% de précipitations en plus, 77% à Strasbourg. En France, l'histoire retiendra peut-être que c'est à Marseille qu'a commencé la campagne présidentielle 2022. Emmanuel Macron doit y passer près de 3 jours, 7 ministres à ses côtés, après un été marqué par des séries de meurtres entre bandes de trafiquants de drogue. Et alors qu'en cette veille de rentrée scolaire, près de la moitié des écoles de la ville sont encore en très mauvais état. Le président de la République doit débloquer des moyens pour les écoles, justement, mais aussi les transports et la rénovation urbaine. Et il sera confronté à cette question. Que faire contre l'insécurité dans les quartiers nord en particulier? Le ministre de l'Intérieur promet 300 policiers supplémentaires d'ici à 2023. Il en faut 800, selon le maire de la ville, le socialiste Benoît Payan. Programme des premières heures pour Emmanuel Macron. Il quitte Paris après le Conseil des ministres. Rencontre avec des habitants des quartiers nord. Puis arrêt dans un commissariat. Alors qu'attendent les policiers de sa venue? Élément de réponse avec vous, Hugo Charpentier.
Des visites et des promesses présidentielles, les policiers marseillais en ont vu d'autres. Du coup, ils préfèrent rester plutôt prudents, même s'ils saluent quand même la venue d'Emmanuel Macron. Edicide est délégué unité SGP Police FO.
Ça reste un honneur de recevoir effectivement le président de la République. Mais mes collègues sont en attente de voir les moyens qui nous seront alloués et surtout la temporalité de cela. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas que ce soit des moyens sur 2, 3, 4, 5 ans.
Ce qu'ils veulent, c'est du long terme, à commencer par les renforts promis en début d'année, 300 policiers de plus à Marseille d'ici 2024. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt bien parti. 94 fonctionnaires sont déjà arrivés.
Ce qui est quand même formidable, parce qu'il faut souligner que ça faisait des années que l'agglomération marseillaise perdait des fonctionnaires de police.
Autre demande, la mise en place d'un réseau de vidéoprotection digne de ce nom.
Ça, c'est une véritable problématique. Ça nous permettra vraiment de lutter contre les trafics de stupéfiants, les tentatives de règlement de compte, parce que c'est aussi ça l'idée, c'est d'intervenir plus rapidement, que ce soit dans ces quartiers populaires ou dans d'autres.
Et de son côté, Bruno Bartosetti, secrétaire de la zone sud du syndicat Unité SGP Police, attend des annonces concrètes, fortes, concernant les enquêteurs qui travaillent en lien étroit avec la justice.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un officier de police judiciaire a beaucoup de difficultés pour ficeler une procédure, comme on dit dans notre jargon, et présenter cette procédure dans les temps et dans de bonnes conditions à des magistrats. Donc c'est pour cette raison qu'au-delà de la présence policière, il faut aussi d'autres moyens judiciaires. C'est vraiment un large sujet et nous on attend du concret sur du long terme.
Au président maintenant de dévoiler ses arbitrages.
Invité de ce journal, l'archevêque de Marseille. Bonjour Monseigneur Aveline.
Bonjour.
Monseigneur Aveline, 15 morts victimes des trafics de drogue depuis le début de l'année à Marseille. Un adolescent de 14 ans tué cet été. Quel regard posez-vous sur cette réalité marseillaise ?
Je pense que c'est les morts à répétition de cet été et puis la jeunesse des victimes. Appelle, à mon avis, à un réveil des consciences. On pourra bien mettre tous les moyens du monde, et je me réjouis bien sûr que l'État prenne conscience des moyens qu'il faut apporter à la ville de Marseille, mais tous les moyens du monde ne sauraient suffire s'il n'y a pas un réveil des consciences. Et moi, c'est à ça que je voudrais appeler, parce que à Marseille, on a l'habitude de savoir s'émerveiller devant la beauté de la nature. Il faut qu'on retrouve l'habitude de savoir s'indigner quand une vie humaine est bafouée.
Que mettez-vous derrière ce terme de réveil des consciences, Monseigneur Aveline ?
Je mets justement de voir le prix de toute vie humaine et la nécessité aussi d'une dignité dans ce qu'on vit, à la fois dans l'habitat, dans l'environnement qu'on a, dans les écoles, etc. C'est tout cela. Et puis il y a aussi le réveil des consciences, parce que tout ça est beaucoup lié quand même au trafic de drogue, le réveil des consciences du point de vue des consommateurs, cette complicité qu'ils entretiennent avec des réseaux mortifères. Et c'est ça que je vais derrière aussi. La conscience est un sanctuaire et il faut la réveiller quand elle risque d'être trop anesthésiée et quand l'indifférence étouffe l'indignation.
On sait à quel point la situation est délicate dans une partie des quartiers nord. Est-ce que l'Église, vos bénévoles, associations, religieux, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous êtes présent dans ces quartiers ?
Oui, on est présent et on essaie de travailler au maximum avec les associations de quartier, avec les centres sociaux, avec aussi les croyants d'autres traditions religieuses, en particulier musulmanes. Oui, on est présent à travers des petites communautés de célébration, on est présent aussi par des initiatives nouvelles dans les cités, je pense au Rocher, à la fraternité Bernadette.
Mais c'est difficile d'y aller, c'est difficile d'établir le dialogue ou c'est encore possible ?
Je crois que ce qui rend possible le dialogue, c'est la fidélité d'une proximité. Oui. On peut pas établir le dialogue si on vient juste de temps en temps pour donner des leçons de vivre ensemble. On établit vraiment que si on partage la vie des habitants et s'ils voient que on les prend pas de haut, mais qu'on essaye de vivre avec eux et d'améliorer avec eux le quotidien. Et ça, je le vois très concrètement dans plusieurs sites des quartiers nord que je connais bien. J'ai dit par exemple l'autre jour à quelques jeunes, faites-moi vous visiter votre quartier. Et quand on passe du temps avec eux, on voit la fierté qui peut surgir, même quand il y a une très grande mésestime de soi à cause des conditions dans lesquelles on vit.
Liaison téléphonique difficile, nous allons rester là. Merci beaucoup, Monseigneur Aveline, d'avoir pris quelques minutes pour dialoguer avec nous. Alors, Emmanuel Macron promet un plan historique pour Marseille. Il y a près de 10 ans déjà, en 2012, sous la présidence de François Hollande, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avait présenté un plan pour sortir Marseille de ses difficultés. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Avec quel résultat ?
Alors, si on reprend les priorités de Jean-Marc Ayrault, amélioration des transports, désenclavement des quartiers dans un projet à l'échelle de la métropole ex-Marseille, et bien 9 ans après, les résultats sont maigres. Pas de nouvelles lignes de métro, une gare Saint-Charles toujours aussi saturée. En 2012, on promettait une nouvelle gare souterraine d'ici 2030. Le chantier gigantesque n'a toujours pas commencé. Pour le sociologue Jean Viard, spécialiste de Marseille, c'est pourtant la condition pour désenclaver ces fameux quartiers nord. Alors pourquoi une telle paralysie ? Le retard pris par la ville depuis 30 ans est très difficile à rattraper, explique Jean Jean Viard, qui pointe malgré tout un sous-investissement logistique de l'État que les différents plans n'ont pas corrigé. Autre raison, l'échec de la métropole voulue par le gouvernement Hollande. Entre 2012 et 2016, Jean Théry était préfet délégué chargé du projet. Il dénonce aujourd'hui un grand gâchis, rien de concret n'a été fait. La faute, selon lui, au manque de volonté de certains élus. Et pourtant, pour cet urbaniste, seule la prise en compte de cette échelle permettrait de développer Marseille, de développer les quartiers nord géographiquement au cœur de ce territoire. La loi existe, il faut juste la réactiver, soupire Jean Théry, qui espère bien qu'Emmanuel Macron aborde le sujet.
À Marseille, comme ailleurs, rentrée des enseignants aujourd'hui avant celle des élèves demain, rentrée la plus normale possible, dit à l'instant le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Elle se fait tout de même sous le signe du Covid. En métropole, la quatrième vague est moins puissante, nombre de nouveaux cas sous les 20 000, nombre de personnes hospitalisées et en soins critiques stables. On en parle tout à l'heure avec notre invité de la situation épidémiologique. N'hésitez pas à poser vos questions au 01 45 24 7000, avec notamment celle-ci de question. Le virus risque-t-il de circuler à nouveau à la faveur des grandes retrouvailles à l'école? C'est ce que redoute l'épidémiologiste de Pasteur, membre du conseil scientifique, le professeur Fontanet, même si les dernières semaines ont apporté aussi des nouvelles rassurantes.
La vaccination des 12-17 ans, c'est une excellente nouvelle. Personne ne s'attendait à ce qu'on ait globalement 60-70% des adolescents vaccinés à la rentrée. Après, le fait que chez les moins de 12 ans, qui ne sont pas éligibles pour la vaccination, eh bien, se trouve la plus grande partie de la population susceptible à l'infection, fait que le virus va circuler dans les écoles. Il va donc falloir mettre tout en œuvre pour limiter au maximum les transmissions. Et les règles, on les connaît. On a su faire fonctionner les écoles l'année dernière. Il faut faire la même chose cette année avec toutes les mesures de distance physique, port du masque, surtout aération des lieux. On s'est rendu compte vraiment que l'aération des locaux est très importante. Et puis, il faudra aussi mettre en place une surveillance pour savoir ce qui se passe réellement dans les écoles, parce que ça va être quand même le lieu où on peut s'attendre à ce qu'il y ait le plus de circulation du virus dans les semaines qui viennent.
Propos recueillis par Hélène Chevalier, deux tiers des 12-17 ans ont reçu au moins une dose de vaccin. Les enseignants massivement vaccinés aussi, selon le ministre de l'Éducation ce matin sur France Inter, 89% d'entre eux ont reçu au moins une dose. Malgré tout, ce contexte sanitaire appelle beaucoup de questions de la part des 800 000 professeurs en cette journée de rentrée. Rappelons quelques points du protocole. Masque pour tout le monde en classe à partir du CP. Si un cas de Covid apparaît, fermeture de classe à l'école, au collège, les élèves vaccinés peuvent rester, les autres passent à distance. Et cette rentrée des enseignants, nous la suivons dans le Val d'Oise. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Vous êtes au lycée Louis Armand à Aubonne. Beaucoup de questions donc à propos de ce protocole sanitaire.
Oui, alors comme d'habitude, les professeurs ont commencé par se raconter leurs vacances. Mais très vite, les inquiétudes ont pris le dessus. Sylvie résume l'état d'esprit général.
Perplexe par rapport aux suites du Covid, au traitement que va donner notre ministre. C'est un peu le flou artistique, donc c'est un petit peu compliqué de se projeter.
Léo, plus jeune dans l'équipe des enseignants, préfère lui rester confiant pour le moment.
J'essaie de me dire que cette année on ne va pas être embêté par les restrictions sanitaires, que ça va être bien, qu'il n'y aura pas de distanciel, qui est vraiment la pire des choses pour un prof. Moi je suis prof de langue. Donc vous imaginez bien, voilà. Vous imaginez bien la difficulté de faire un cours de langue en distanciel.
D'après les chiffres dont le proviseur dispose, 60% des élèves de ce lycée ne sont pas vaccinés. Ils auront des créneaux de vaccination réservés à l'hôpital d'Aubonne. Mais pour Gilles, pas question de se transformer en porte-parole pro-vaccination.
C'est peut-être le réflexe prof de philo, mais j'ai pas envie d'être le relais du ministère parce que j'ai mes convictions personnelles. Moi, je suis plutôt pro-vaccin, etc. Mais je suis aussi un peu pro-liberté, choix individuel. Donc, faire un peu de la propagande, c'est se servir de son autorité pour autre chose.
Les enseignants ont posé beaucoup de questions sur la gestion des cas contacts et l'isolement des élèves quand ils ne sont pas vaccinés. Ils s'attendent encore à une année difficile.
Sonia Princey en direct du lycée Louis Armand à Aubonne avec les moyens techniques de Stéphane Beaufils pour France Inter. Le pass sanitaire continuera d'être exigé dans les grands centres commerciaux à Paris. La justice a rejeté un recours ce matin. Emmanuel Macron est à Marseille à partir de cet après-midi, on le disait. Jean Castex, lui, est à Matignon, la deuxième partie de semaine du Premier ministre jusqu'à vendredi. Ce sera un tour d'horizon de l'actualité avec les syndicats, hausse de salaire ou pas, réforme des retraites bel et bien enterrée ou pas, et la réforme de l'assurance chômage. Principe général, des indemnisations moins généreuses pour davantage inciter à reprendre le travail. Alors Fabien Cazot nous le disait ce matin sur France Inter, le gouvernement compte bien maintenir la date du 1er octobre pour l'entrée en vigueur de cette réforme. Et cela crispe même les syndicats modérés, comme celui des cadres. La CFE-CGC, son président François Auméril, doit être reçu en fin d'après-midi par Jean Castex.
Sur l'assurance chômage, l'attitude du gouvernement est définitivement inadmissible. Plus personne ne croit à la motivation économique ou sociale de la réforme. C'est une réforme anti-chômeur, tout simplement. On nous ressort deux choses aujourd'hui. On nous ressort les fameux 300 000 emplois non pourvus. Mais ça, franchement, c'est se foutre du monde que de dire ça. Les 300 000 emplois non pourvus dont on parle, ils existent depuis plus de 10 ans. Ce sont toujours les mêmes. Ce sont des emplois mal payés, aux mauvaises conditions de travail, mal valorisés, dont finalement les gens ne veulent pas parce que ils ont de bonnes raisons pour ça. Après, pour le reste, il reste quand même plus de 5 millions de personnes qui sont sans emploi aujourd'hui. Le voilà le vrai problème. Et pour ces millions de personnes-là, les conditions dans lesquelles ils vont vivre demain seront beaucoup plus difficiles. Voilà la réalité des choses. Et tout ça part d'un état d'esprit que je trouve parfaitement scandaleux, qui est de dire qu'un demandeur d'emploi, par nature, serait quelqu'un qui ne rechercherait pas activement du travail. Donc moi, je ne comprends pas, là encore, pourquoi le gouvernement s'accroche à une réforme, pour le coup, totalement populiste.
Un propos recueilli par Maxime Debs. Dans la zone euro, le taux de chômage est en baisse, 7,6% pour ce taux en juillet.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Une parade des talibans dans des véhicules militaires américains à Kandahar, Afghanistan, 36 heures après le départ des Américains. Parmi les acquis de 20 ans de présence occidentale qui risquent d'être remis en cause en Afghanistan, il y a la liberté de la presse. Lors du premier passage au pouvoir des talibans, il n'existait aucun média. Aujourd'hui, il y a 160 radios, par exemple, en Afghanistan, selon l'agence France Presse. Autre chiffre, avant la prise de pouvoir des talibans, quelques 700 journalistes femmes travaillaient à Kaboul ces derniers mois. Eh bien, selon l'association Reporters sans frontières, il n'en reste déjà plus que 100, 15 jours après la prise de pouvoir. Les autres ont été contraintes d'arrêter leur activité ou elles ont fui. Et une histoire résume ce moment, Claude Guibal, c'est celle d'une femme qui s'appelle Beheshta Argand.
Le 17 août dernier, Beheshta Argand, vêtue et voilée de noir, est dans le studio de Tolo News, un média privé afghan. En face d'elle, un homme, Abdulhak Hamadi, un haut cadre taliban. La première interview d'un représentant taliban par une afghane, face à face dans le même lieu, une scène quasi inimaginable qui laisse alors penser que les talibans ont changé. Beheshta Argand, qui n'avait que 4 ans lorsque les talibans ont été chassés du pouvoir par l'offensive américaine, a appris le journalisme à l'université de Kaboul. Quelques jours après cet entretien, elle interview à son tour la prix Nobel Malala Yousafzai, devenue l'icône de la lutte pour la scolarisation des Afghanes, après avoir été victime enfant d'un attentat des talibans. Mais fin août, elle doit fuir le pays, un déchirement qu'elle raconte à la BBC.
Je suis tellement triste, dit-elle, car notre génération s'est tellement battue pour un nouvel Afghanistan. Mon travail, mon pays me manque tellement. S'il y a une chance que les talibans changent et nous garantissent nos droits comme ils l'ont promis aux Américains, je reviendrai. Mais là, conclut-elle, il n'y a rien, rien. Elles sont des centaines de journalistes aujourd'hui cachés chez elles ou partis en exil.
Hier soir, depuis la Maison Blanche, Joe Biden a défendu très fermement le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. C'était la meilleure décision pour l'Amérique. Mais la victoire des talibans jette une lumière très sombre sur sa première année de mandat. Il n'a pas mis fin à la guerre, il a capitulé, tweet un représentant républicain. La politique américaine, c'est aussi l'offensive très conservatrice d'une partie des républicains. Illustration avec de nouvelles lois au Texas, Olivier Poujade.
La première fait du Texas l'état le plus restrictif aujourd'hui en matière d'IVG, interdiction d'avorter après la 6e semaine dès que les premiers battements de cœur du fœtus sont perceptibles. Ce texte concrétise l'offensive conservatrice menée sans succès par 12 autres états auparavant et s'il n'a pas été retoqué, c'est parce que ce ne sont pas les autorités qui seront chargées de faire respecter cette mesure, mais les Texans eux-mêmes. Une prime à la délation de $10 000 est prévue pour dédommager les citoyens qui porteront plainte contre les personnes ou les organisations aidant les femmes à avorter. 85% d'entre elles au Texas le font généralement après la 6e semaine de grossesse. Deux autres marqueurs ultra-conservateurs entreront aujourd'hui en vigueur. La House Bill 1927 qui autorise le port d'armes sans obligation de permis à partir de 21 ans. Et cette loi électorale votée hier par le Parlement texan s'attaquant à l'accès au vote des minorités latino. Texte fondé sur la vision conspirationniste du gouverneur texan Greg Abbott, déterminé à transformer le Texas en Trumpland, un petit paradis pour les partisans de l'ancien président américain.
En France, alors qu'à Marseille, un plan doit permettre notamment de lutter contre les ravages de la drogue, à Bordeaux, l'un des plus redoutables trafiquants de drogue français passe devant la justice après plus de 10 ans de cavale. Moufid Bouchibi a été arrêté en mars dernier à Dubaï. Il avait déjà été condamné en son absence à 20 ans de prison. Son réseau, qui représentait des dizaines de tonnes de cannabis, arrosait la Bretagne, l'Est de la France et même le Sud-Ouest. Emmanuel Leclerc, vous êtes en direct de Bordeaux pour France Inter. Le procès a mal commencé. D'emblée, incident et 2 suspensions d'audience.
On n'est pas en Chine quand même. Première exclamation ce matin de l'avocat de Moufid Bouchibi, Thomas Bidnik, alors que le procès venait à peine de s'ouvrir. Mon client a été extrait de force de la prison de Gradignan alors qu'il se dit malade. J'ai mal à la tête depuis 4 jours, renchérit Moufid Bouchibi. Et ce matin, c'était violent, dit-il avec une petite voix. Vous avez vu qui ? Une infirmière ? Mais ce n'est pas possible, poursuit l'avocat, interpellant le procureur. Que ce soit vrai ou pas, c'est un minimum légal. Y a-t-il eu une réquisition écrite pour amener mon client de gré ou de force ? Pas de réponse. Apparemment gêné, le président du tribunal finit par ordonner qu'un médecin vienne au palais de justice. Première suspension d'audience. À midi et quart, ça reprend avec une ordonnance pour du paracétamol. Mais ça ne calme visiblement pas les 3 avocats de la défense. Ils entourent le président, exigent d'obtenir du procureur la trace écrite de sa réquisition. Un procureur installé à 2 mètres et qui reste silencieux. Je suspends à nouveau, finit par lancer le président. Le temps de vérifier. Là, ça vient tout juste de reprendre. Enfin, jusqu'au prochain incident prévisible, un cluster Covid vient d'être détecté à la prison de Gradignan. Tous les transferts de prisonniers sont suspendus, confinement strict. Le communiqué est tombé juste après le départ de Moufid Bouchibi pour le tribunal. Et devant la cour d'appel de Bordeaux, Emmanuel Leclerc, France Inter.
Merci Emmanuel. Allez prendre le temps de détailler l'actualité. Tout de suite, l'actualité sur grand écran ce mercredi. La sélection cinéma du mercredi. Bonjour Corinne Pélissier.
Bonjour.
On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. Après un été morose, on cherche le film qui ramènera le public dans les salles. Moins 30% de fréquentation après l'application du pass sanitaire, relevait Roselyne Bachelot en début de semaine. On attend le prochain James Bond le 6 octobre. Un gros espoir dès cette semaine au rayon blockbuster, Corinne, avec Shang-Chi, dernier-né des studios Marvel.
Voilà, du gros son, des grosses voitures pour se mettre dans l'ambiance de ce personnage pas très connu de la galaxie Marvel, avec lequel Disney espère bien susciter le même engouement que pour Black Panther il y a 3 ans. Casting cette fois-ci non pas 100% noir, mais 100% asiatique, qui mélange des stars, Michelle Yeoh, Tony Leung et 2 nouveaux talents, le cascadeur comédien Simu Liu dans le rôle de Shang-Chi, pour un film très genré autour du kung-fu et des arts martiaux. Alors pourquoi ça va marcher ? Parce que contrairement à Black Widow au début de l'été, c'est un film qui est vraiment réussi. Les scènes de combat sont rythmées, pleines de souffle, toujours différentes. Il y a de l'humour, les personnages sont approfondis et l'histoire est ancrée dans notre époque, même s'il est beaucoup question de dragons, de magie, de créatures mystérieuses. Le point fort de Shang-Chi, ce sont les anneaux qu'il va hériter de son père à l'issue d'une aventure assez sombre, comme Thor avec son marteau ou Captain America avec son bouclier. Shang-Chi n'a pas de super pouvoir, mais peut faire plein de choses avec ses fameux bracelets. Il peut déplacer des montagnes, il peut sauver le monde. On le reverra, le film est destiné aussi à l'intégrer dans la phase 4 de l'univers cinématique Marvel, avec par exemple les Avengers ou le Doctor Strange.
Autre sortie, ce film a remporté ce week-end 2 récompenses au festival d'Angoulême. Meilleur acteur pour Sami Outalbadi, meilleur film. C'est une histoire d'amour et de désir, long métrage tunisien qui met en scène 2 étudiants en lettres qui tombe amoureux.
Voilà, on parle d'amour, d'identité, de désir et de littérature érotique. C'est un très beau film qui avait déjà beaucoup plu lors de sa présentation cannoise à la Semaine de la Critique. 2 étudiants en lettres à la Sorbonne qui vont tomber amoureux. D'un côté, Ahmed, 18 ans, d'origine algérienne, ultra timide, des idées très arrêtées sur la sexualité. Et puis de l'autre, Farah, tunisienne arrivée à Paris pour étudier, surtout pour profiter de la vie. C'est un film très doux, très délicat qui prend son temps. Le tout sur fond de poésie arabe et d'érotisme. Vous serez vraiment sur
Ça fait combien 4 fois 2, Gogo, hein ?
8 !
Combien ?
8.
Voilà, j'ai une devinette, Bruno. À votre avis, quel âge a la plus vieille écolière du monde ? Elle a 3 enfants, 22 petits-enfants et 52 arrière-petits-enfants.
Oh, ça nous fait du 90 ans au bas mot.
94 ans, elle s'appelle Priscilla, elle vit au Kenya. Dans son village, tout le monde l'appelle Gogo. Et elle est l'héroïne d'un documentaire qui sort au cinéma aujourd'hui. Très chic, hein, Gogo, avec son petit pull vert, pomme, sa cravate rouge. On la suit chez elle à l'école, en cours de maths ou en train d'apprendre à écrire, à dessiner. C'était souvent difficile, mais elle s'est accrochée pour donner l'exemple. C'est un joli film rempli de chansons, de persévérance. Trop de fillettes aujourd'hui encore n'ont pas accès à l'école. L'histoire de Gogo prend ici une dimension très universelle.
Gogo, une histoire d'amour et de désir, et Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Voilà votre sélection. Corinne Pellissier à l'affiche également ce mercredi. Il y a la dernière comédie avec Cadmera qui s'appelle Un triomphe. Le triomphe, c'est pour Florent Joigny. 7e médaille d'or française aux Jeux Paralympiques la nuit dernière en cyclisme. Ces dernières heures, le bronze également pour le nageur Hugo Didier. À l'US Open de tennis, Djokovic fait un petit pas de plus vers le Grand Chelem. Il passe le premier tour en 4-7. La nuit prochaine, un Français disputera pour la première fois le second tour d'un Grand Chelem. Il s'appelle Arthur Rinderknecht et son parcours est particulier. Souvenez-vous, lors du dernier Roland-Garros, lors duquel les Français n'avaient pas beaucoup brillé, le système de formation à la Fédération de tennis avait été mis en cause. Eh bien, Fabrice Abgral, ce qui est intéressant avec Arthur Rinderknecht, c'est qu'il est passé par une autre voie.
Arthur Rinderknecht n'a pas suivi la filière fédérale. Il a préféré prendre son destin en main quand en 2014, bac scientifique en poche, il décide à 18 ans de partir aux États-Unis pour intégrer une université au Texas. Il y restera 4 ans, le temps d'obtenir un bachelor en business et de se construire un début de carrière, d'abord avec son équipe universitaire, puis en solo, en participant à des tournois américains. C'est là que ce joueur longiligne d'1m96 prend conscience de son potentiel. Alors en 2018, il décide de passer professionnel. Arthur Rinderknecht revient en France, intègre le Centre National d'Entraînement avant de le quitter il y a un an et demi. Il se paye un entraîneur et écume les tournois de deuxième et troisième catégorie. En mars 2020, juste avant la crise sanitaire, il est 160e mondial. Aujourd'hui, 83e et pour la première fois au deuxième tour d'un tournoi du Grand Chelem et tout ça à 26 ans.
Ça fait que 3 ans que j'ai commencé le circuit. Je fais mon bonhomme de chemin. J'ai ce chemin qui est différent des autres. C'est un autre cursus à ma façon. Je pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, il y ait la bonne ou la mauvaise façon d'y arriver. Donc je continue de donner mon max et on verra où est-ce que ça m'emmène.
Et pour l'instant, Arthur Rinderknecht est sur la bonne voie. Il est le deuxième meilleur joueur français à la race, un classement qui ne prend en compte que les résultats de l'année en cours.
En football, les Français entament leur 4e match de qualification pour le Mondial l'année prochaine au Qatar. France-Bosnie, 20h45 ce soir. Ils sont pour l'instant en tête de leur groupe. Avant la suite du 13-14, en cette veille de rentrée scolaire, séquence nostalgie et tristesse à Noirefontaine. 400 habitants dans le pays de Montbéliard. L'école du village n'ouvrira pas demain. Pas assez d'élèves. Il y a 72 enfants, il en manque une douzaine. Et la particularité, c'est que cette école accueillait des élèves depuis 135 ans. Voici la Guitoune, France Bleu Belfort-Montbéliard.
Tout est encore là, la marelle dans la cour de récré, les dessins de chevaux sur les murs de la salle de cours et autour d'une table, des anciens élèves sortent de vieilles photos.
On se moque un petit peu de nos tenues de l'époque. Il y a eu l'époque blouse à carreaux, il y a eu l'époque cheveux longs.
C'était pas les petits débardeurs, les petites jeans.
Evelyne et Annie étaient, elles, des élèves dans les années 60.
Déjà le matin, il fallait présenter ses mains.
La première semaine d'école, donc j'avais 5 ans, j'ai fait une tâche sur mon cahier, j'ai été en punition. Hein. Si elle nous croisait pendant les vacances et qu'on était impolis ou qu'on se comportait mal, eh bien, à la rentrée, on avait droit à notre punition. Hein. Elle nous surveillait H24.
Ça, c'est pour les plus anciens. Pour les plus jeunes, comme Pierre-Antoine, 33 ans, c'est la même émotion aussi.
C'est un peu de nostalgie parce que c'est notre jeunesse qui était ici. Ma grand-mère était ici, ma mère était ici, donc moi je suis passé ici.
Et tous, peu importe l'âge, ressentent le même pincement au cœur.
Savoir qu'effectivement, le cours s'arrête, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Quoi.
Qu'il n'y ait plus d'enfants dans la cour, ça va faire drôle. Moi, à 10h le matin, si je passe en voiture, j'ai toujours un œil sur la cour pour regarder les gamins. Là, il n'y en aura plus. Quoi.
C'est un peu une âme qui s'en va. Quoi.
La mairie va faire en sorte que l'école reste un lieu de vie et soit en priorité occupée par des associations.
Quant aux enfants de Noirefontaine, ils iront en classe à côté, à Villars ou d'Anjou. Soleil et température agréable aujourd'hui dans le pays de Montbéliard. Dans un instant, la météo, puis notre invité, vos questions sur l'épidémie de Covid au 01 45 24 7000.
Tant qu'on est tous les deux, le livre Vérité de Gaël Tchakaloff dans l'intimité de Brigitte et Emmanuel Macron. Gaël Tchakaloff.
Brigitte, je viens de passer 2 années auprès de toi, auprès de vous deux, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Élysée. 2 ans au cœur du réacteur, au cœur de l'amour fou, confronté à la violence du pouvoir. 2 ans avec vos familles, vos amis, vos plus proches. Je n'ai pas eu besoin d'inventer pour écrire votre roman, car votre quotidien dépasse tout ce que l'on peut imaginer.
Tant qu'on est tous les deux, le livre événement chez Flammarion Versilio.
13h29.
La météo avec Via Santé.
la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonjour Sébastien Réas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
C'est doux et ensoleillé aujourd'hui.
Oui, nous entrons aujourd'hui dans l'automne météorologique et ce premier jour d'automne est placé sous le signe du soleil et d'un ciel presque tout bleu sur la plupart des régions. Entre le nord de la Bretagne et les frontières belges, les grisailles de ce matin tendent à se morceler. Les éclaircies vont s'élargir quand même cet après-midi. Quelques poches de nuages bas pourront tout de même rester plus récalcitrantes. Dans le sud-ouest, le ciel se voile de plus en plus, devenant même blanchâtre parfois entre le sud-Aquitaine et le Languedoc. Ces nuages élevés assez épais sont en fait liés à des averses localement orageuses qui éclatent le long des Pyrénées. Ces averses et ces orages concernent surtout le côté espagnol des Pyrénées, mais des débordements côté français sont attendus, comme en ce moment entre le Pays Basque, le Béarn et la Bigorre. Pour les températures, elles sont plutôt douces, 20 à 30 degrés du nord au sud, 18 à 21 degrés près de la Manche. On ira jusqu'à 31 degrés à Avignon, 24 degrés pour Paris et 26 degrés à Limoges. En revanche, cette douceur sera parfois un peu atténuée par le vent sensible.
C'est noté, merci Sébastien Léas. 13h30 sur France Inter.
Le 13-14. Bruno Dumont.
C'est l'heure de l'invité du 13-14. La France est sur le bon chemin d'un retour à la vie normale. Jean Castex a eu des propos assez optimistes hier en déplacement dans le Bas-Rhin. Après plus d'un an et demi d'épidémie de Covid et au terme d'un été marqué à la fois par la quatrième vague et la forte progression de la vaccination. Le nombre de personnes hospitalisées reste stable à un niveau assez élevé, autour de 11 000. Un peu plus de 2 000 personnes sont en soins critiques, moins de 20 000 nouveaux cas quotidiens. Mais des taux d'incidence encore extrêmement élevés sont relevés outre-mer. La menace d'un regain de l'épidémie existe avec la rentrée scolaire et il y a l'incertitude des nouveaux variants et de ce que Delta nous réserve encore. Un point sur l'épidémie de Covid. Alors que commence la campagne pour une troisième dose pour les plus fragiles, toutes vos questions sont les bienvenues. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique Réagir. Pour dialoguer avec vous, le docteur Clarisse Audigier-Valette. Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Vous êtes pneumo-oncologue, responsable de l'unité Covid, pneumo au centre hospitalier Toulon-Sainte-Musse. La France est sur le bon chemin d'un retour à la vie normale. Est-ce que vous reprendriez cet optimisme du Premier ministre hier, optimisme qu'il a tempéré, hein, pour dire les choses précisément?
Alors, en tant que soignant, je resterai toujours optimiste parce que c'est vrai qu'on arrive à mieux connaître cette maladie. Après, j'aurai un optimisme déplacé. On n'a encore pas passé notre pic de contamination, ni notre pic d'hospitalisation. Comme vous l'avez dit, la vague reste assez importante, surtout dans la région PACA, où on a été très, très impacté parce qu'on a reçu effectivement une grande partie de la population française en vacances. Donc, c'est encore excessivement difficile. Mais bon, ça fait plus d'un an presque, on va presque atteindre les 2 ans qu'on tient comme ça. Donc oui, on reste particulièrement confiant. Enfin, si on perd le courage maintenant, il faut changer de métier. Mais c'est vrai qu'on espère que la vaccination va nous aider à franchir ce cap-là.
Comment ça se passe dans votre hôpital de Toulon? De deux points de vue. D'abord, les malades. Et puis, j'entends dans votre première réponse que vous tenez compte aussi de l'état de fatigue des soignants. Donc, un, les malades, deux, les soignants.
Alors les malades, on a vraiment vu un changement complet avec l'arrivée du variant Delta, hein, ce qu'on aurait pu présager lorsque en juin on pouvait regarder déjà les indicateurs en Angleterre. Le variant Delta est plus agressif et plus contagieux et plus contaminant, donc on se retrouve avec trois flux de patients. Deux qu'on aurait pu éviter, à savoir les gens, les non vaccinés qu'on appelle jeunes, hein, donc c'est la tranche 18-45 ans, ouais. Qui n'ont pas forcément de comorbidité et qui étaient éligibles à la vaccination depuis le mois de juin, mais qui ne se sentaient pas vraiment concernés parce que c'est un fait, hein, mais ils ont traversé les trois premières vagues sans encombre, donc ouais. Ils se disaient qu'ils passeraient à la quatrième. C'était sans compter sur le variant Delta. Donc ça, c'est la première vague de patients qu'on a. La deuxième catégorie de patients, c'est les non vaccinés avec comorbidité qui, eux, sont éligibles à la vaccination depuis janvier 2021. Là aussi, on regrette qu'ils ne se soient pas fait vacciner. Donc cela aussi pourrait être évité. Et puis, on a une toute petite partie. Donc les deux premières catégories, c'est 90% de nos patients. Et on a une toute petite partie qui correspond à 10%. C'est ceux qui ne sont pas protégés par la vaccination ou qui ne sont plus protégés par la vaccination, à savoir les sujets plus âgés pour lesquels la vaccination, l'effet de la vaccination s'est épuisé, et c'est ceux qui sont dans l'indication de troisième dose, oui. Et puis ceux pour lesquels la vaccination est moins efficace, à savoir les patients qui sont très immunodéprimés, les greffés, les insuffisants rénaux, les gens qui sont traités par chimiothérapie. Et donc là, c'est cette toute petite partie de patients pour lesquels on ne pouvait pas éviter l'impact de la quatrième vague avec le variant Delta.
Les deux autres,
on pouvait l'éviter.
Ouais. Voilà. Je mets de côté ma question sur les soignants, j'y reviendrai, parce que votre remarque va bien avec la question de Jean au standard. Bonjour Jean.
Bonjour.
Vous avez 82 ans, je me permets de dire votre âge, c'est important. Vous nous appelez de Luisan.
De Luisan, oui. Je rends visite à mon épouse qui est dans un établissement Alzheimer quasiment tous les jours pour lui donner son goûter.
Oui.
J'ai eu les deux injections. Ma seconde injection, c'était le 2 mars. J'ai pris hier soir un rendez-vous pour une injection le 12 septembre. Je trouve que ce délai est relativement court. Je voudrais savoir ce qu'en pense madame le professeur.
Donc, mars-septembre, ça fait 6 mois.
Ça fait 6 mois.
Qu'en dites-vous, docteur Odiger Valette?
Je pense qu'on est parfaitement dans la fourchette de l'épuisement de l'efficacité vaccinale. Et actuellement, c'est vrai que les patients qu'on a dans ces catégories-là, donc au-dessus de 80 ans, et donc là maintenant la fourchette s'est élargie, hein, c'est au-dessus de 65 ans, mais vraiment au-dessus de 80 ans, les patients qu'on a en hospitalisation sont les gens qui ont été vaccinés en janvier, février, mars, avec une injection deuxième dose en mars.
Oui.
Il n'y a pas de sur-risque à faire un excès de vaccination à un moment donné, même quand on avait eu un antécédent de Covid, on faisait deux injections au lieu d'en faire qu'une. Au contraire, vaut mieux être surprotégé que sous-protégé. Donc non, je pense que le délai est parfaitement conforme à ce qu'on voit sur la décroissance de l'efficacité. Donc c'est concordant et je vous encourage et je vous félicite d'y être allé si vite.
Benjamin nous demande sur l'appli, se dirige-t-on vers une troisième dose pour tous, sachant par exemple qu'Israël maintenant vaccine dès 12 ans, une troisième dose dès 12 ans.
Alors là, c'est déjà nous, on n'est même pas en vaccination complète au-dessus de 12 ans, donc là c'est compliqué. En revanche, si depuis la notification de la Direction générale de la santé de vendredi soir, qui étend la troisième dose aux plus de 65 ans à 6 mois de la première, il y a un petit alinéa en bas en disant qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait une extension des populations concernées. Ça me paraît assez logique de vacciner en troisième dose les plus à risque. Donc après, est-ce que dans les plus à risque, il y aura les soignants plus de 50 ans? J'en sais rien. Là, actuellement, identifier les plus vulnérables et de nouveau les protéger me paraît très logique. Dans des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous, comme l'Israël, c'est sûr qu'eux, ils peuvent étendre largement. Clairement, il faut identifier les populations qui ont besoin de cette troisième dose sans partir tête baissée à vacciner tout le monde. Mais là encore, il faut y aller progressivement. On y est allé pour la vaccination classique. En toute logique, on devrait suivre pour les troisièmes doses, mais lié à la décroissance des anticorps. Hein. Oui. Mais après, il faudra aussi avoir les moyens de mesurer cette décroissance des anticorps, ces fameux anticorps anti-S, hein, oui. Pour voir quelle population, quelle personne va pouvoir bénéficier de cette troisième dose.
Et là-dessus, la science doit encore progresser.
Oui, on a les moyens de détecter les anticorps anti-S. Après, c'est des sérologies qui, pour l'instant, le remboursement n'est pas validé par l'HAS parce que c'est vraiment complètement personne dépendant. Oui. Encore une fois, si déjà on avait ces marqueurs et c'est pour les personnes les plus vulnérables, pour savoir l'efficacité vaccinale, c'est important d'avoir ça. Après, à titre individuel, chaque personne est différente face à son immunité. Mais je crois que si on est immunocompétent, il n'y a pas que les anticorps anti-S, on a aussi ce qu'on appelle notre immunité cellulaire. C'est ce qui nous protège aussi naturellement, en plus de la vaccination. Après, lorsqu'on a eu une vaccination, on a quand même une immunité cellulaire qu'on ne peut pas détecter dans le sang, et ça aussi, ça nous protège.
Chantal au standard. Bonjour Chantal.
Bonjour et merci.
Merci.
Alors voilà ma question. Le vaccin me protège, moi, mais est-ce que le vaccin diminue la propagation du Covid?
Docteur Odiger Valette.
Alors c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de controverses là-dessus. La différence avec le variant Delta, c'est qu'on stoppe beaucoup moins la transmission qu'avec les variants précédents. Cela ne veut pas dire que le vaccin ne protège pas. Il protège à titre individuel, ça c'est une certitude, à plus de 90% contre les hospitalisations et les formes graves, hein, puisque c'est ça l'objectif d'un vaccin. En revanche, au niveau de la transmission, les personnes vaccinées transmettent moins et sur un temps beaucoup plus court. Donc oui, le vaccin protège également les autres parce qu'on diminue le temps de contagion et on diminue la charge virale qui est celle qui est la plus contaminante sur un temps très très court. Donc il faut continuer à dire que le vaccin protège soi-même parce que à titre individuel c'est incontestable, mais protège aussi les autres parce que le vacciné sera moins contagieux et moins longtemps.
Cela dit, ça veut dire que la notion d'immunité collective, on ne l'obtiendra pas seulement avec le vaccin.
Alors ça, c'est une autre donnée. C'est-à-dire que l'immunité collective, c'est la théorie qui permet de dire que les non-vaccinés peuvent tirer bénéfice des vaccinés. Ce qui n'est plus le cas avec le variant Delta, puisque comme on l'a très bien dit, le variant Delta et la vaccination ne bloquent, le vaccin ne bloque pas la transmission. Ce qui fait que les vaccinés ne peuvent plus compter sur les non-vaccinés pour les protéger. Mais au contraire, ça veut dire qu'il faut augmenter le taux de vaccination, puisque seuls les vaccinés sont protégés, et il ne faut pas inverser la phrase en disant que c'est les vaccinés qui contaminent les non-vaccinés. C'est les non-vaccinés qui ne sont pas assez protégés, donc il faut qu'ils aillent vers la vaccination afin que tout le monde soit protégé et que plus on aura un taux de vaccination important, plus on transformera cette maladie avec un potentiel de gravité important en un simple rhume. Et c'est ça l'objectif. L'échec d'immunité collective ne veut pas dire un échec vaccinal. L'échec d'immunité collective, ça veut dire qu'on est obligé d'augmenter notre seuil de vaccination pour pouvoir revivre normalement. Et avec le variant Delta, le seuil d'immunité collective est largement remonté par rapport à ce qu'on espérait initialement. On avait misé quand même sur 60% de la population vaccinée pour avoir une immunité collective. On en est très loin. Il faut être au-dessus de 80%.
Il y a beaucoup de questions, docteur Odigier Valette, sur la vaccination des enfants ou des jeunes ados. Parlons des jeunes ados, puisque pour l'instant, les enfants, c'est pas d'actualité. Avec cette notion que le bénéfice individuel pour eux, puisque le risque de développer une maladie, une forme grave de la maladie est très limité pour, par exemple, un enfant de 12 ans, le bénéfice risque pour eux, qu'en dites-vous si vous avez face à vous un parent qui dit « Est-ce que je fais vacciner mon fils ou ma fille de 12 ans ?» Que lui répondez-vous ?
Alors, je suis pas pédiatre, donc je communique assez peu sur la vaccination des enfants, mais il y a quelque chose de très important, et ça, c'est valable pour toutes les catégories, c'est le rapport bénéfice-risque, comme vous l'avez dit. Si effectivement, il y a très très peu de formes graves chez les enfants, comme c'était avec les précédents variants, à ce moment-là, la vaccination des enfants n'est pas prioritaire. Seulement, avec le variant Delta, et c'est là aussi, il faut regarder les indicateurs des autres pays, si on a beaucoup plus de taux d'hospitalisation chez les enfants, beaucoup plus de complications liées à la maladie Covid, soit par des formes chroniques, soit par des formes aiguës, à ce moment-là, c'est là où on doit repositionner et descendre le seuil des indications vaccinales. Donc ça, c'est valable pour toutes les catégories. Et on l'a vu également chez les adultes, lorsque au début, on a vacciné que les vulnérables, et maintenant, on se retrouve avec des 18-45 ans, où on se dit ils avaient besoin d'être vaccinés, sauf que, en fait, l'évolution virale a fait qu'on a pris du retard là-dessus. Mais ça, c'est parce que s'il y a une émergence du variant Delta, qui est plus agressif.
J'avais promis de reposer la question sur l'état de forme, si j'ose dire, des soignants à l'hôpital de Toulon après plus d'un an et demi de pandémie. Quel est-il et est-ce qu'ils sont prêts à tenir encore longtemps ?
Alors, nous, enfin, l'état de forme des soignants, l'objectif d'un soignant, c'est de sauver des vies. En pratique, nous, tant qu'on sauve des vies, il n'y a pas de problème. On est prêt à tenir jusqu'au bout et on s'organise de cette façon-là. Ce qui est difficile actuellement, c'est que on se retrouve avec des catégories de patients pour lesquels on voit bien qu'ils n'avaient pas compris la gravité de la maladie. Ils en font le constat quand ils sont hospitalisés. On parle trop de réanimation et de mort qui sont très faibles, heureusement, parce que dans notre pays, qui a un système de soins qui est très performant, heureusement qu'on ne meurt pas du Covid quand on est jeune, mais une hospitalisation dans un secteur de pneumologie à passer une semaine à plat ventre parce qu'on ne peut pas respirer, c'est très traumatisant pour les familles, pour les patients eux-mêmes. Donc ça nous fait tenir jusqu'au bout de sauver des vies. Ce qui est compliqué, c'est de voir cette contestation qui est une minorité, encore une fois, parce que ça concerne moins de 10%, ce qu'on appelle les anti-vax, mais ça nous prend 90% du temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est passé à côté de notre mission et que la vaccination est devenue une décision politique, et ça, c'est très compliqué parce que nous, on est dans le sanitaire, on est là pour soigner et qu'il y ait des argumentaires politiques dans le choix de la vaccination, c'est très, très compliqué pour nous. Et je crois que, en fait, la science a beaucoup souffert durant cette année. Il y a des menaces envers des soignants. Ça, c'est absolument intolérable. Alors qu'en fait, notre métier, c'est de protéger et que nous, on n'est pas là pour vendre la vaccination, pour vendre quoi que ce soit. On est là pour protéger les gens. Et on voit qu'on pouvait éviter des hospitalisations, qu'on pouvait éviter des désastres familiaux en les protégeant avec la vaccination et que notre message ne soit pas suffisamment passé. Ça, c'est un constat d'échec, mais de communication. Mais si on est là pour sauver les gens, on tiendra jusqu'au bout et on soignera tout le monde sans aucun critère de sélection, parce qu'autrement, on arrête d'être médecin.
Et on voit que ce sujet vous tient à cœur, notamment à Toulon, où il y a eu des cortèges assez importants dans les manifestations anti-pass. Dernière question de Claude. Va-t-on se faire vacciner contre le Covid chaque année, comme on se fait vacciner contre la grippe ?
Alors ça pour l'instant on peut pas dire. Si on arrive à éliminer cette pandémie, ben ma foi, on pourra complètement éradiquer le virus. Le MERS, qui était une autre forme de SARS, en fait, SARS-CoV, qui était en 2003, a complètement disparu. La variole a complètement disparu. On n'est pas, si vous voulez, dans une impasse en disant après on voit pas le bout là. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se faire vacciner parce que le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'arrive un variant qui soit résistant à la vaccination. Pour l'instant, un variant qui limite pas la transmission, c'est le moindre mal. Donc, plus on se vaccine, plus on verra le bout, et moins on aura à se vacciner tous les ans. Mais après, s'il faut se vacciner tous les ans, on le fera, on le fait pour la grippe, ça ne nous pose aucun problème.
Merci docteur Clarisse Odigier-Valette d'avoir pris quelques minutes pour dialoguer avec les auditeurs de France Inter. Il est 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire, bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Le pont aérien depuis Kaboul s'est refermé, les diplomates se sont beaucoup activés ces dernières semaines. Ce qui vous a rappelé les années 70 au Chili.
Où s'est posée la question de l'accueil des réfugiés dans une ambassade française à Santiago en 73.
À tout à l'heure, dans 10 minutes. Avant cela, notre feuilleton, une semaine dans la vie d'un infirmier. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
12 millions d'élèves font leur rentrée demain et aujourd'hui, les enseignants retrouvent leurs établissements. Alors à votre micro, eh bien un enseignant qui évoque une chanson qui lui tient à cœur. Il s'appelle Thomas Cepitelli, prof de français et de théâtre dans un lycée du Mans.
Longtemps, il a aussi été chargé de cours à l'université. Il a également enseigné au collège pendant 4 ans et il adore son métier.
Je ne sais pas si je suis un bon prof. Ce que je sais, c'est que j'essaye de faire en sorte tous les matins de me rendre compte à quel point j'ai de la chance et à quel point, en même temps, c'est une charge lourde. C'est une vraie responsabilité. On n'opère pas à cœur ouvert, mais je crois qu'il faut avoir quelque chose en soi qui nous meut, vraiment. Une volonté de transmettre, de partager, de donner des chances, d'ouvrir des portes, de planter des graines. On prend la métaphore qu'on veut, mais j'y crois beaucoup. Même si c'est un élève par an qui peut être ému par quelques phrase de, je ne sais pas, de Chateaubriand, de Duras, de Molière. C'est une chance folle de voir ça dans les yeux des élèves, je trouve.
Dans les paniers d'osier de la salle des ventes, une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quel amour d'antan. Elle était la figée superbe et déchirante. Les mains qui se nouaient, se dénouaient tremblantes. Des mains belles encore déformées, les doigts nus, comme sont nus parfois les arbres en novembre. Comme chaque matin dans la salle des ventes, pour donner une foule fiévreuse et impatiente. Ce qui pour quelques sous rachète pour les vendre, les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus.
Et c'est donc Barbara qui a choisi de nous faire écouter Thomas Cepitelli.
Drouot, l'une des chansons de son album L'Aigle Noir. Année de sortie 1970, Thomas Cepitelli l'a découverte beaucoup plus tard. Il avait 25 ans.
Elle est attachée à un souvenir de soirée très précis. Fin de soirée, très très tard, chez mon meilleur ami, à écouter des chansons. Il nous a chanté celle-ci avec Barbara en fond. Et il m'avait bouleversé, je connaissais pas cette chanson. Et puis je crois que c'est le thème qui me bouleverse, enfin, qu'est-ce qu'on fait du temps qui passe en fait.
Le marteau se leva dans la salle des ventes, une fois puis deux fois, alors dans le silence, Elle cria, je prends, je rachète tout ça. Ce que vous vendez là, c'est mon passé à moi.
Ce texte de Barbara, est-ce que c'est un texte que vous pourriez faire étudier en classe?
Ah oui, je pense que... Il y a une première chose, c'est qu'avec le titre déjà, poser la notion de ce qu'on appelle l'horizon d'attente, qu'est-ce qu'on attend quand on entend le mot de Rouault. Et puis, peut-être leur montrer la différence entre le signifiant et le signifié. Cette breloque, ce bijou, pour nous, il veut rien dire. Pour les marchands de la salle des ventes, c'est une aubaine financière peut-être. Mais pour elle, c'est son passé. Il y a tout ce passé dans cette petite chaîne-là, dans ce bracelet. Et je trouve ça très beau. C'est un regard poétique sur le monde aussi.
Car venait de surgir du fond de sa mémoire, du fond de sa mémoire, un visage oublié, une image chérie du fond de sa mémoire, son seul amour de femme, son seul amour de femme.
Moi, c'est ce que j'appelle ma chanson lacrymale. C'est-à-dire quand de temps en temps, je sens qu'il y a une tristesse qui ne s'évacue pas. Je la mets et c'est immédiat.
Elle vous fait pleurer à chaque fois.
Ah oui, c'est systématique.
C'est pas vraiment une chanson de rentrée.
Non, mais bon, c'est écrit nulle part que ça doit nous rendre joyeux, des chansons. C'est pas obligé. C'est très bien que ça nous rend joyeux, mais la chance que ça nous donne, c'est d'être ému.
À garde le sorti de la salle des ventes, je la fis s'éloigner, courbée et déchirante. De son amour d'antan, rien ne lui restait plus. Pas même ce souvenir, aujourd'hui disparu.
Barbara Drouot, c'était donc le choix, Frédéric, de Thomas Cepitelli.
Émouvant, professeur de français et de théâtre dans un lycée du Mans, à qui l'on souhaite bien sûr une excellente rentrée.
Et la rentrée, nous la suivrons demain dans une école à la campagne, le 13-14 à Saint-Florentin dans l'Yonne. Nous y parlerons aussi de désertification médicale. Le feuilleton pour l'instant, une semaine dans la vie d'un infirmier tout juste diplômé. Julien travaille dans un hôpital du Val d'Oise. Troisième épisode aujourd'hui, au micro d'Antoine Gignot, les études.
Quand j'étais plus jeune, je voulais faire pompier. Et le milieu hospitalier me plaisait beaucoup. Je suis parti dans cette école en 2018. Sur 3 années, j'ai payé moi-même mes études de 24 000 euros parce que je rentrais dans aucune case pour que mes études me soient payées par l'État ou par je ne sais quel autre organisme qui puisse nous aider. Voilà, aujourd'hui, je touche 1850 approximativement net par mois. Enfin, dans les hôpitaux, c'est une grille de salaire. Hein. Vous commencez échelon zéro et puis jusqu'à passer des échelons tous les gens et le salaire augmente un petit peu. C'est pas négociable. Il y a que dans le privé, c'est négociable. Ce qui me plaît dans l'hôpital, c'est le travail d'équipe aussi. Il y a une bonne entente dans l'équipe. Enfin, moi, dans mon service, ça aide de rire. Ça permet d'évacuer le stress quotidien. Pas devant les patients, parce que des fois, on rigole bien fort et qu'on balance bien sûr des trucs un peu... où faut pas le dire devant les patients parce qu'ils apprécieraient pas, mais faut bien... comment dire? Dédramatiser, ouais. Donc c'est ça qui me plaît dans ce métier-là, et c'est de pouvoir aider les gens malades, les gens souffrants à aller mieux. Et je me dis que c'est un peu aussi grâce à moi que la personne se sent mieux et qu'elle peut rentrer chez elle en bonne santé.
Si on regarde les statistiques, 97% des hôpitaux ont aujourd'hui du mal à recruter. L'an dernier, à la même époque, on cherchait 34 000 infirmiers en France. Ça veut dire qu'il y a du travail partout. Ça veut dire aussi qu'on peut choisir son poste, le secteur dans lequel on veut travailler.
On veut devenir infirmier, on devient infirmier si on a envie de travailler le lendemain de notre diplôme, on peut travailler le lendemain de notre diplôme. Après, comme vous le dites, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus prisés que d'autres.
Comme ?
En réanimation, c'est compliqué, vous voulez travailler aux urgences, c'est compliqué, parce que c'est des secteurs qui sont très prisés. Il y a des soins, ils sont multiples dans ces milieux-là, et là, il n'y a pas trop de routine. Il y a des services qui sont plus ou moins prisés, il y a des services plus ou moins difficiles. Moi, quand j'ai commencé dans le service où j'ai été, on m'a dit, mais... T'es fou, parce que c'est un service où la charge de travail, elle est importante. Mais moi, c'est ce que je voulais, parce que je voulais voir beaucoup de choses. Je voulais continuer à me former au niveau technique. Prise de sang, sonde urinaire, poche de stomie, poser des cathéters sur voies périphériques. Les soins sont multiples dans le service où je suis, et c'est ça qui me plaît. Quand il y a des problèmes, c'est stressant parce qu'on a la vie des gens entre nos mains, pas que les nôtres. Il y a plusieurs spécialités de métiers qui rentrent en jeu dans la prise en charge du patient, mais nous, les infirmiers, c'est vrai que c'est avec les aides-soignantes, on est, on va dire, entre guillemets, au front, parce que c'est nous qui sommes le plus au contact du patient, et quand l'état du patient s'aggrave aussi, c'est compliqué pour nous. On nous prépare théoriquement à ça, mais il faut le vivre pour vraiment le comprendre. On le vit une fois, deux fois, trois fois, et après, on s'habitue à tout, donc on vit les choses de mieux en mieux.
Ça veut dire que vous le gérez mieux ou ça veut dire que vous êtes un peu insensibilisé ?
Non, je ne suis pas insensibilisé, mais je le gère beaucoup mieux. On apprend beaucoup mieux à gérer ses émotions au fil du temps. Parce que si on n'apprend pas à gérer ses émotions, c'est sûr que quand on rentre chez nous le soir, on devient dépressif au bout d'un moment, quoi. Ou alcoolique, ou ce que vous voulez. On n'est jamais préparé, de toute façon, à la souffrance, à la peur, à la maladie. Une fois qu'on le vit, c'est pas la même chose.
Quand vous faites le tour des gens qui ont traversé ça avec vous,
ouais.
Ils sont dans le même état, il y en a qui ont arrêté, il y en a qui ont continué, comment ça se passe ?
On dit que l'âge de vie d'un infirmier, c'est de 5 ans. Après, il change de métier. C'est quand vous parlez à des soignants, non, l'âge de vie d'un infirmier, c'est 5 ans. C'est comme ça, c'est dans les mœurs.
Une semaine dans leur vie, feuilleton réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, la très difficile évacuation de l'aéroport de Kaboul. Événement inédit dans l'histoire diplomatique, mais au moins depuis la guerre d'Espagne, les diplomates français ont été appelés bien souvent à se hausser au-dessus d'eux-mêmes, en quelque sorte. Ils ont dû à plusieurs reprises traiter des personnes en danger de mort qui demandaient l'asile. Différence par rapport à Kaboul, c'était souvent dans leurs locaux, les ambassades, les consulats.
Au 19e siècle, c'était posé d'abord la question de l'accueil de dirigeants politiques chassés du pouvoir et qui sollicitaient un refuge. Les coups d'État étaient si nombreux en Amérique latine que pour les Français, une sorte d'accueil d'usage s'était établi sur ce continent seulement. Et c'est d'ailleurs en Amérique latine, au Chili, qu'un nouveau cas de figure se pose. Septembre 73, le président socialiste Allende est renversé par la junte du général Pinochet. Des milliers de militants de gauche menacés de mort se présentent non pas devant l'ambassade des États-Unis, non plus devant celle du Royaume-Uni ou de la Chine de Mao, mais face aux grilles de la représentation française. C'est l'opposant François Mitterrand qui était l'ami d'Allende à l'époque. Le ministre des Affaires étrangères d'alors, Michel Jobert, est au regret de dire que le malheureux président a succombé, faute d'avoir réussi dans son expérience, que critique longuement le président Pompidou. Le Chili apparaît à la droite un peu comme le miroir de ce qui pourrait advenir en France si l'union de la gauche y gagnait un jour les élections. Georges Pompidou, ému, ajoute néanmoins « Il faut faire tout son possible sur le plan humanitaire ».
Et sur place à Santiago, les diplomates vont faire l'impossible.
À Santiago, notre représentant était en Europe le 11 septembre 1973. Le chargé d'affaires, Jean-Noël Bouillane de Lacoste, voyant survenir les premières personnes, prend sur lui de les accueillir. Et une fois l'ambassadeur Pierre de Menton revenu, les portes continuent de s'ouvrir. La chancellerie et la résidence deviennent un gigantesque dortoir. En période de pointe, jusqu'à 170 personnes à la résidence, 90 à la chancellerie. Les diplomates et leurs femmes font les courses, les premiers temps sur leur denier. Les réfugiés assurent la cuisine dans une tente dressée sur la pelouse. Et le soir, Pierre de Menton quitte le bureau dont il a gardé l'usage, avec deux chambres pour lui et ses enfants, et il vient leur parler de la résistance au nazisme dans laquelle s'est illustrée sa famille en Haute-Savoie. Au Quai d'Orsay, le directeur des affaires consulaires s'appelle Gilbert de Chambrun. Il a commandé un maquis en Lozère. Une ligne budgétaire est donc dégagée pour assurer le financement de la vie quotidienne des quelques 600 ou 800 asilés qui passeront par l'ambassade. Michel Jobert donne lui-même une somme sur ses fonds personnels et prend bien garde de ne pas le faire savoir.
Oui, parce que Paris compte maintenir les relations diplomatiques. La France répète comme aujourd'hui qu'elle reconnaît les États et non pas les gouvernements. Et il lui faut ne pas donner à Pinochet un prétexte pour rompre.
Le couple Menton continue de se rendre un pas vide aux réceptions que reprend la junte. Ces raouts me dégoûtent, dira Françoise de Menton. Mais il faut bien obtenir les sauf-conduits qui permettront l'exfiltration des réfugiés vers l'aéroport. Et à chaque fois, l'ambassadeur les accompagne. Les derniers seront partis en décembre.
L'opinion est toujours tentée de croire ou croit ainsi que l'asile diplomatique est une valeur jusqu'ici à peu près assurée.
Oui, mais c'est en réalité une convention d'usage, une libéralité humanitaire mal fondée en droit Et les régimes qui, comment dire, manquent à la courtoisie peuvent évidemment aller outre. Moins de 2 ans après le coup d'État chilien, les Khmers rouges vont le prouver. Ils refuseront de considérer l'ambassade de France comme un territoire préservé, exigeront la liste des réfugiés, menaceront de venir les chercher eux-mêmes et d'embarquer aussi les ressortissants français. Et il faudra leur céder au moins en partie. Si l'ambassade de France à Kaboul rouvrait, comment faudra-t-il faire ?
Jean Lebrun, le vif de l'histoire tous les jours, juste avant 14h. Bonjour cher Mathieu Vida.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré dans quelques petites minutes. Dites-moi quel est le programme.
Eh bien, on va essayer de se reconnecter à la nature avec nos invités.
À tout de suite.